Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que l'Éternel bénisse sa parole.
Nous pourrions nous poser la question, dans le droit fil de cette semaine que nous avons vécue, ce que Jésus aimerait dire. Et ce matin, nous posons la question, ce que Jésus aimerait dire à l'Église. Alors c'est vrai que Jésus a beaucoup de messages, il a parlé à beaucoup de personnes pendant cette semaine, au président de la République, à ceux qui vendent la mort, à tous les trafiquants de tous ordres sur toute la planète. Nous avons pensé que Jésus avait quelque chose à dire aussi au président Donald Trump et à tous ceux qui veulent diriger le monde, aux prostituées, sans TVA, à tous ceux qui se vendent à tout et à toutes sortes d'idées parce qu'on pense qu'il y a une marchandisation de l'être humain. On a parlé aussi de tous ceux qui ont mis en place tous les réseaux sociaux. Et Jésus a quelque chose aussi à dire à tous ceux qui versent peut-être dans l'addiction et qui ne savent pas comment gérer cet attachement, pour ne pas dire aussi cette infidélité. Hier soir, nous avons parlé de ce Dieu qu'on appelle le dollar ou l'argent, et après ou devant lequel s'inclinent des millions d'êtres humains, parce que les gens sont dans une course folle au nom de l'amour de l'argent, même si l'argent est nécessaire. Mais ce matin, nous voulons dire en quelques mots rappeler ce que Jésus veut dire à l'Église. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, je veux humblement me soumettre à ta grâce afin que je sois ton porte-parole ce matin, que ta parole soit partagée, communiquée avec clarté et efficacité pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, en tout cas les deux premiers chapitres, les trois même on pourrait dire, on voit le Seigneur Jésus qui veut dire quelque chose à l'Église. Alors on peut se demander, mais pourquoi Jésus veut dire quelque chose à l'Église? De quel droit? L'apôtre Paul a déjà mis en évidence que Jésus est le chef suprême de l'Église et que personne d'autre n'a le droit de s'arroger ce titre-là. Chef suprême de l'Église, si un humain prend ce titre, c'est une usurpation. N'allez pas le répéter, mais pensez-y quand même. Jésus est le seul chef suprême. Et si on prend les expressions qui viennent du latin, en tout cas de l'Antiquité, du monde romain, l'expression « souverain pontife » s'était adressée au chef des armées, et l'empereur allait prendre ce titre. Et Jésus est ce pont, ce grand pont, c'est ça que cela veut dire « souverain pontife », le grand pont qui est là posé entre le Seigneur et l'humanité pour nous dire « venez à moi ». Venez à moi. C'est pour cela que Jésus, en toute légitimité et avec autorité, pouvait dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » S'il y a des visiteurs ce matin, et même ceux qui regarderaient après, derrière leur écran, mesdames et messieurs, je veux vous adresser solennellement une invitation à considérer réellement la personne de Jésus-Christ, qui est non seulement le sauveur des hommes, mais qui est surtout le Seigneur. le roi des rois. Et Jésus vient aussi à nous ce matin comme Seigneur de l'Église. Dans le texte qui a été lu tout à l'heure, nous avons compris que Jésus s'adresse à la septième Église d'une série de sept, pour ne pas dire la dernière, l'ultime Église. Alors quand nous lisons à partir du chapitre 2, verset 1er, l'Église d'Éphèse, et nous suivons les autres Églises, nous arrivons à cette septième Église. Une question littéraire pourrait se poser. Pourquoi Jésus n'a pas écrit une seule lettre adressée à toutes les églises? Il aurait pu faire une sorte d'économie rédactionnelle. Pourquoi cette lettre à cette église? Et quand nous interprétons cela sur le plan historique ou théologique, nous nous rendons compte qu'il y a une sorte de dynamique de progression. Et si nous arrivons à la septième église et que ce chiffre 7 représente ce qui est complet, ce qui est entier, ce qui peut être considéré comme la somme de ce que Dieu veut dire à l'Église, nous comprenons que la dernière lettre est la lettre qui s'adresse à l'Église dans sa dernière étape, comme l'ultime étape dans l'histoire des nations. Et ce qui est intéressant quand nous lisons les prophéties bibliques, les textes où il y a un lien avec l'Église, ou l'autre expression, le peuple de Dieu, nous découvrons que tous ces textes, tous ces récits s'inscrivent avec en toile de fond l'histoire des nations. C'est une bonne chose. Pour dire que lorsque nous ouvrons la Bible, il n'y a pas que les croyants qui sont concernés. Toute l'humanité est concernée. Parce que l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible se pose sur le fil de l'histoire des nations, de l'histoire de l'humanité. Nous en avons parlé pendant cette semaine avec des visions qui ont montré la succession des empires jusqu'à l'ensemble des nations européennes, jusqu'à notre Union européenne aujourd'hui. Et un texte avait dit par la voix prophétique, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire de ces nations européennes, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui durera éternellement. Nous sommes en plein dans l'histoire. Et quand nous considérons cette dernière lettre, nous découvrons que Jésus veut apporter, non pas une touche finale, mais une interpellation ultime pour son peuple. La question qui peut se poser avant même de retrouver les éléments de cette lettre, qu'est-ce qui a pu se produire dans l'histoire de l'Église et qui peut servir de leçon à cette ultime Église? En d'autres mots, est-ce qu'en 2019, les croyants, les chrétiens, ceux qui font partie de l'Église de Dieu ont appris quelque chose de l'histoire? Est-ce que les croyants ont appris du passé? Ou bien est-ce que les croyants s'asseyent et passivement regardent devant eux en disant « quelque chose va se passer, nous ne savons pas quoi, mais quelque chose va se passer ». On est attentiste. La dernière lettre a une perspective, permettez-moi le mot, adventiste. Et je le dis sans sectarisme. Parce que la dernière lettre se situe dans la perspective du retour de Jésus. Et quand le chrétien pose son regard sur cette promesse, sur cet événement ultime, le plus grandiose qui attend l'humanité, ben ce chrétien devient adventiste de pensée, de cœur. Je ne suis pas en train de parler de l'Église adventiste du septième jour, je suis en train de parler de l'adventisme qui est biblique. Le vrai christianisme est nécessairement adventiste, parce que le vrai christianisme se situe dans la perspective du retour de Jésus. Que dit Jésus à cette dernière église? Si vous avez votre Bible, prenez-la avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, mettez-vous à côté de quelqu'un, ou sinon ouvrez votre smartphone, mais restez sur la page biblique, s'il vous plaît, au moins pendant le temps de la prédication. Écrit, chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Alors, on pourrait penser que c'est l'ange de l'église qui est concerné. Et si vous regardez bien, à l'entête de chaque lettre, c'est à l'ange de l'Église que Jésus demande à écrire. Maintenant, on pourrait se dire, ben, si c'est seulement l'ange de l'Église, c'est-à-dire le messager de l'Église, on pourrait dire, mais c'est le responsable, le pasteur, celui qui doit porter la parole, mais le reste n'est pas concerné. Seulement, Jésus va ajouter régulièrement quelque chose à la fin des lettres, de chaque lettre. Regardez aussi au verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et si vous regardez le verset 13 qui précède la dernière lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et la première béatitude du chapitre 1er, verset 3, disait « Heureux celui et ceux ». Donc il y a un pluriel, toute la communauté est concernée, la communauté des croyants. Nous ne pouvons pas dire c'est seulement les dirigeants, les responsables des églises qui sont concernés, et pas les membres, pas, comme on dit dans d'autres contextes, permettez-moi le mot, les paroissiens. Ne soyez pas scandalisés par le mot paroissien, soyez scandalisés par la négligence de ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que Jésus peut vous déranger dans votre bien-être quand il vient vous dire quelque chose de la sorte? Écoutez ce qu'il dit à cette église de Laodicée. « Je connais tes œuvres », verset 15. « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Alors là, ça commence à déranger. Parce que si l'église n'a rien appris des 6 premières lettres, l'ultime église pourrait être vexée parce que Jésus lui parle d'une certaine manière. Nous n'aimons pas qu'on nous dise qu'on est mou, qu'on est tiède, qu'on n'est pas passionné, qu'on a le syndrome Gaston Lagaffe. Aucune passion. Tu es tiède. Est-ce que Jésus aime les tièdes? Parfois, on peut penser que c'est bien de prendre une boisson tiède, parce que trop chaude, ça brûle la langue. Trop froide, elle est désagréable. Jésus aurait pu avoir le sens de l'équilibre, parce que entre tiède, le tiède, c'est ni froid, ni bouillant. Pourquoi Jésus fait-il le difficile? Mais Jésus dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Choisis, l'un ou l'autre. Jésus accepte que quelqu'un soit froid. Et je crois que c'est une manière de respecter son Église quand il le lui dit. Si tu veux être froid ou froide pour l'Église, sois froide. Mais assume. Si tu veux être bouillant ou bouillante, sois bouillante. Assume. Mais si tu es tiède, j'ai un problème. Moi, Jésus, j'ai un problème. C'est peut-être surprenant de savoir que Jésus a un problème, parce que Jésus ne peut pas supporter les tièdes. Et cette église de Laodicée, qui est à la dernière place, ou le mot place peut-être n'est pas le plus approprié, à la dernière étape de l'histoire de l'église, en s'entend dire, tu es tiède, mais si tu restes tiède, je te vomirai de ma bouche, au verset 16. Jésus dit à cette église aussi, voilà ta prétention. Tu es riche, tu dis de toi-même. Voilà le CV que tu présentes à l'humanité. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne chantes pas, je n'ai besoin de personne. Tu dis juste, je n'ai besoin de rien. Je sais tout. J'ai tout acquis. Encore un peu, tu dirais, j'ai la vérité de toutes les vérités. Je suis dans le vrai, dans le bon, dans le bien. Personne ne doit me faire une leçon quelconque. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, après ce diagnostic, Jésus propose des remèdes. C'est vrai qu'il a donné un avertissement. Si tu es tiède, tu es incompatible avec mon projet. Quelqu'un pourrait se dire, mais pourquoi Jésus donne le sentiment qu'il est en train de rejeter quelqu'un? Parce que le même Jésus, on l'a entendu dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comment se permet-il de dire, je te vomirai de ma bouche? L'expression est claire, même si elle paraît un petit peu désagréable ou dégoûtante. C'est parce que Jésus, quand il vient à l'église, quand il se donne à l'Église, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 qu'il se donne totalement à son Église. Totalement. Avec Jésus, il n'y a pas d'effraction. Il est entier dans ce qu'il fait et il s'attend à ce que son Église soit entière dans sa démarche aussi. Alors, après le diagnostic, Et il y aura d'autres avertissements. Jésus conseille à son Église d'acheter de l'huile de l'or éprouvée par le feu pour devenir riche. Jésus n'aime pas voir son Église pauvre, misérable, des vêtements blancs. Et plus loin, on va voir dans Apocalypse 7, Apocalypse 14, que ceux qui portent des vêtements blancs et qui sont en train de chanter les louanges de l'agneau sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, ils les ont blanchis, dira l'ange à Jean, dans le sang de l'agneau. Blanchis, c'est-à-dire, ils ont cherché en Jésus et en Jésus seul la force de croire. En Jésus et en Jésus seul, ils ont trouvé leur abri. En Jésus et en Jésus seul, ils ont trouvé le sens de leur foi. En Jésus et en Jésus seul, ils ont trouvé le courage d'avancer. En Jésus et en Jésus seul, ils ont trouvé et obtenu le pardon de leurs péchés. En Jésus et en Jésus seul, ils ont obtenu la justification par la foi. En Jésus et en Jésus seul, ils ont compris qu'ils peuvent entrer dans la vie éternelle. Sans Jésus, point de salut. Sans Jésus, point de progrès. Sans Jésus, le chrétien peut rester tiède. Sans Jésus, le chrétien, même s'il est dans la foule de chrétiens, il peut être passif et ne pas progresser. Parce que Jésus a donné quelques avertissements dans les paraboles du royaume. Je vous renvoie à Matthieu 25, par exemple, où Jésus fait comprendre qu'il y a des croyants qui vont être rejetés lorsqu'il va revenir. Ce qui peut paraître scandaleux. Scandaleux. Et même certains croyants vont dire, mais nous avons fait des choses en ton nom. Nous avons cru en toi, nous avons partagé ta parole, nous avons prêché, nous avons même fait des miracles en ton nom. Et comment tu dis que tu ne nous connais pas? Nous te connaissons. Non, vous connaissez mon nom. Mais vous ne me connaissez pas ma personne. Vous connaissez des choses sur moi. Mais vous avez parlé de moi. Mais vous ne m'avez jamais parlé. Vous parliez des choses que je fais. Mais quelle était la teneur? Quelle était l'intensité? Quelle était la qualité, la profondeur de votre relation avec moi? Étiez-vous des observateurs? Ou étiez-vous juste des chrétiens de confession, mais presque non pratiquants? C'est un peu cela que Jésus dit derrière ce mot tiède. Et dans son programme, il n'y a pas de place pour les tièdes, les timorés. Ça ne veut pas dire que Jésus n'aime pas les gens réservés. Nous ne parlons pas de l'aspect émotionnel, de l'affect, quand nous parlons de quelqu'un qui est timide. Nous parlons de spiritualité et d'engagement. Jésus ne veut pas que son Église se trouve dans la honte de la nudité, spirituellement parlant. Et cette expression nous renvoie au chapitre 3 de la Genèse, où l'homme et la femme, après avoir péché, se sont retrouvés dans la honte de leur nudité, privés de la gloire de Dieu. Et le même Paul va dire, par exemple, dans Romains chapitre 3, verset 23, nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Le péché sépare. Le péché amène la nudité, la honte. Et quand nous pensons que nous sommes agréablement, merveilleusement, sur le plan stylistique, bien vêtus, spirituellement, Jésus dit, attention, il y a un risque quelque part, peut-être, tu es nu. Mais moi, je veux te donner la possibilité de recouvrir cette nudité. Cela s'appelle la justification par la foi. Cela s'appelle l'acceptation des mérites de Jésus dans notre vie. Cela s'appelle la confiance pleine quand Jésus, Dieu, nous accepte. Quand Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. S'il y a quelqu'un ici ce matin, ou ailleurs, chez vous, qui a un doute, ne vous découragez pas. Peut-être vous ne trouvez pas de sens à votre vie parce que vous faites face à de nombreux problèmes relationnels, professionnels, des problèmes de santé et vous dites « Dieu n'existe pas ». Ce matin, je veux vous dire au nom de ce même Dieu, laissez-le entrer dans votre vie. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Tout seul, vous n'arriverez pas à la conclusion que Dieu existe. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre de cette vérité. Donnez une chance à Dieu de faire un pas dans votre vie et il vous ouvrira un chemin parce qu'il est lui-même le chemin. Alors, Jésus rappelle à son Église, cette ultime Église, verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repends-toi. » Alors, reprendre, châtier, corriger, éduquer. Quand nous sommes complexés, Nous n'aimons pas que quelqu'un vienne nous dire ah, ce n'est pas bien, il faut améliorer. Est-ce que Jésus ne respecte pas trop la personnalité de son Église quand il dit ça? Est-ce que Jésus ne sait pas que l'Église pourrait être susceptible? Pourquoi Jésus vient dire des choses aussi dures, aussi graves que cela à son Église? Et donc, du zèle et repens-toi. Est-ce que l'Église, en 2019, a besoin de se repentir? Est-ce que l'Église aurait pu se tromper de direction? Est-ce que le christianisme sur cette planète aujourd'hui, sur tous les continents, a besoin de se repenser? Est-ce que l'Église chrétienne doit se remettre à genoux et demander au Seigneur de lui indiquer la route? Un peu comme David qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, connais mes pensées, vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et donc, du zèle, et reprends-toi aussi. Oui, certainement, Jésus veut dire quelque chose à son Église en cette année pour se ressaisir. Parce que si le monde ne sait pas que Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, c'est que l'Église ne proclame plus. Si les chrétiens sont contents d'être chrétiens pour eux-mêmes, Jésus probablement est en train de leur dire aujourd'hui, aie donc du zèle et repens-toi. Repends-toi et fais-le vite. Parce que je me tiens à la porte. Je frappe. Quelqu'un entendrait-il ma voix pour m'ouvrir la porte? On aime bien cette image que la poignée de cette porte spirituelle se trouve à l'intérieur de la maison. Il y a des portes comme cela. Si vous avez oublié vos clés à l'intérieur et que la porte se claque, vous devez appeler un serrurier. Vous cassez une vitre pour entrer dans votre propre maison parce que les portes à une seule poignée sont peut-être sécurisantes pour certains, mais dangereuses pour d'autres. Et combien de personnes ont oublié les clés et ont claqué la porte? Parfois, c'est le vent qui vous joue des tours, des courants d'air. Quelqu'un a-t-il claqué la porte de notre cœur? Quelqu'un a-t-il claqué la porte de notre cœur? Y a-t-il un vent contraire qui aurait claqué la porte de notre cœur? Et nous avons oublié les clés à l'intérieur. Nous aussi, nous nous trouvons dehors. Et nous disons à Jésus, ben, la clé est à l'intérieur, je ne peux même pas te faire entrer chez moi. Y a-t-il des courants d'air d'ordre spirituel, moral, qui pourrait bloquer les portes de nombreux chrétiens sur terre aujourd'hui? Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, aie donc du zèle et repens-toi. Reviens, reviens vers moi. Reviens vers moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alors si quelqu'un ce matin entend la voix de Dieu lui parler, est-il prêt à donner son cœur à Jésus? Parce que Jésus veut voir des vainqueurs. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son cœur ce matin à Jésus? Je veux l'inviter à venir devant, je veux prier avec lui. Parce que Jésus a des projets pour vous, pour chacun de vous. Y a-t-il quelqu'un qui considère attentivement l'idée de suivre des études bibliques, de se faire baptiser, parce qu'il entend la voix de Jésus dire, « Et donc, du zèle, repens-toi, je veux te voir dans mon royaume. » Pourquoi? Verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur mon trône avec mon Père sur son trône. » Jésus n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre. Jésus occupe sa place. Et Jésus ne vous donnera pas la place de quelqu'un d'autre. Jésus vous donnera la place qu'il a prévue pour vous. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 14, verset 1 à 3, vous voyez que Jésus a dit qu'il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc Jésus a préparé une place pour vous. Vous ne prendrez jamais la place de quelqu'un d'autre. Jésus ne sera pas pris au dépourvu dans son royaume. Quand vous viendrez, quand il vous introduira dans la maison de son Père, il dit, voilà ta place. Il ne dira pas à quelqu'un, est-ce que tu peux te lever et donner ta place à quelqu'un d'autre? Je suis un peu pris de court. Non! Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait venir et dire au Seigneur, prends ma vie, parce que je veux me connecter à toi? Si vous voulez venir et que vous hésitez, levez simplement la main, je viendrai vous chercher. Sinon, demandez à votre voisin, de vous accompagner. Peut-être vous n'avez jamais songé à vous connecter au Seigneur, à Dieu. Et ce matin, il est en train de vous parler. Voulez-vous lui donner une chance en ouvrant la porte de votre cœur? Même si vous ouvrez lentement, en demandant, qui c'est? Je ne suis pas sûr, est-ce que je peux vous laisser entrer? Pourquoi vous êtes là? Mais c'est Jésus. Alors si c'est Jésus, dites à Jésus, je veux te donner une chance. Amen. Si c'est Jésus, dites à Jésus, je veux que tu transformes ma vie. Si vous sentez que vous êtes dans une situation qui n'est pas compatible, vous pensez que vous êtes riche spirituellement, mais Jésus est en train de poser le doigt sur une misère spirituelle. Venez poser cela devant le Seigneur. Parce qu'après le diagnostic, il donne le remède. Et Jésus est le remède à tous nos problèmes spirituels. Avez-vous besoin d'une vraie conversion, d'une véritable repentance? Cherchez-vous le Seigneur. Peut-être vous n'êtes pas membre de l'Église adventiste du septième jour. Peut-être vous n'êtes pas chrétien du tout, mais vous voulez prêter une oreille attentive. Ou peut-être vous êtes chrétien d'une autre église, mais ce matin, Jésus est en train de vous parler. Si vous sentez que vous devez lui dire quelque chose, approchez-vous, je veux prier avec vous et pour vous. Si pendant la prière, quelqu'un veut se joindre à nous, n'hésitez pas, venez. J'insiste, si vous êtes trop timide, demandez à votre voisin de vous accompagner. Cette salle n'est pas si grande que cela. Donnez votre cœur à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que vous auriez appris de l'histoire de l'Église que Jésus a un projet sérieux et ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Bientôt, Jésus va revenir et il va prendre avec lui le peuple qui aurait accepté de changer d'avis, de se repentir et d'accepter le diagnostic de Jésus et les remèdes de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, voilà les personnes qui ont accepté de se lever ce matin pour te dire qu'elles entendent ta voix. Ton appel. Tu sais quelle est leur prière secrète, personnelle, profonde. Tu sais ce qu'il y a à changer dans leur vie. Tu sais de quel miracle ces personnes ont besoin. Nous n'avons même pas besoin de t'en informer parce que toi, tu sais toutes choses. Tu lis dans les cœurs. Et ce qui est bien avec toi, Seigneur, tu nous dis clairement la vérité. Peut-être certains pensent que tu ne ménages pas nos susceptibilités, mais tu ne veux pas des gens susceptibles dans ton royaume. Tu veux des gens courageux, francs, honnêtes, qui acceptent ton diagnostic et qui acceptent surtout les remèdes que tu leur proposes. Seigneur, si nous avons tous besoin de nous repentir, d'avoir du zèle, de nous reprendre, de nous ressaisir, alors que le Saint-Esprit passe dans nos cœurs et transforme nos vies, nous voulons t'ouvrir la porte de notre cœur. Et pour les personnes qui se sont levées ce matin et qui veulent faire cette démarche, Seigneur, je te prie de leur donner l'encouragement que toi seul tu sais donner et que le Saint-Esprit leur apporte la consolation, la clarté nécessaire pour que tu fasses concourir les temps, les circonstances, afin que ces personnes puissent se donner à toi par le baptême lorsque le bon moment viendra, parce que toi, tu fais toutes choses bien en ton temps. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Saint-Esprit vous accompagne et qu'il vous guide, qu'il vous éclaire. Je prie aussi pour que l'Église soit toujours disposée et disponible pour vous accueillir et vous donner l'occasion de sceller votre alliance avec le Seigneur quand le moment viendra. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que sa grâce vous accompagne au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Je prie pour que les anciens ou les secrétaires d'Église accompagnent les personnes qui le souhaitent pour laisser vos coordonnées afin que ce que Jésus veut vous dire encore se prolonge et que sa paix soit dans vos cœurs. N'hésitez pas à rester en contact, laissez vos coordonnées si c'est nécessaire pour toute personne qui n'a pas encore fait cela ici et que le Seigneur conduise ces choses-là pour la gloire de son Saint-Nom. Vous pouvez regagner vos places. Que Dieu vous bénisse.